France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Notre invité, Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Vos questions, 01 45 24 7000. Jacques écoute France Inter ce matin, il est avec nous. Bonjour Jacques.
Allô, oui, bonjour.
Bonjour. Jean Jouzel vous écoute.
Oui, alors en fait, d'abord, juste une petite précision, je m'appelle Jacques Alfandari parce que je suis pas un anonyme. Deuxièmement, mes deux questions, en fait, la première c'était par rapport aux pluies acides, parce que pendant très 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 longtemps on nous a parlé des pluies acides, et puis depuis très longtemps maintenant on n'en parle plus. Alors, je voulais savoir si ça n'existe plus, et s'il se passe plus rien du tout à ce niveau-là, parce que ça détruisait quand même pas mal de forêts, si je me trompe pas, les arbres devenaient rouges. Et puis la deuxième question, c'est par rapport au stockage des données informatiques dans le Grand Nord et en Scandinavie, qui nécessite beaucoup d'air conditionné et de refroidissement, et qui, est-ce que ça provoque pas non plus une hausse de la température ambiante pas très très loin du pôle, justement? Voilà mes deux questions.
Parfait, Jacques. Les pluies acides, oui. Jean Jouzel.
Donc, ce sont deux questions dont je ne suis pas spécialiste. Les pluies acides, effectivement, c'est aussi... on en parlait beaucoup quand j'étais jeune chercheur, beaucoup moins maintenant. Je pense qu'il y a eu des efforts de fait aussi au niveau des pluies acides elles-mêmes. Enfin, disons, parce que, par exemple, en Europe, il y a moins d'industrie. Mais effectivement, les pluies acides n'ont pas forcément disparu. Peut-être il y en a moins en Europe à cause de la diminution de l'activité industrielle, et aussi de l'amélioration des processus et de ce qu'il sort de ses usines, de ce qu'il sortait. Alors pour les non localement, évidemment vous posez la question de l'utilisation d'énergie, de beaucoup d'énergie pour le stockage des données, et c'est vrai pour aussi tous les centres de données, mais ça ne joue pas sur le réchauffement global. C'est effectivement local, très local, que ce soit en Europe ou que ce soit dans le Grand Nord, ce ne sont que des effets locaux sur le climat, ou extrêmement locaux.
Jean-Joseph, puisqu'on parle du Grand Nord, Ségolène Royal a été nommée ambassadrice de France chargée des négociations internationales sur les pôles arctiques et antarctiques. Quelles doivent être les actions prioritaires, selon vous, de Ségolène Royal sur ces dossiers?
Bien, c'est le rôle qu'a joué Michel Rocard pendant presque une dizaine d'années, je pense. Hein. Oui. Et c'est un rôle de présence, de représentativité de la France. La France, nous avons intérêt, nous sommes au niveau de la communauté scientifique extrêmement présent, y compris dans l'Arctique. Dans l'Antarctique, nous sommes aussi présents à partir des terres australes et antarctiques françaises. C'est d'une certaine façon assurer la présence de la France dans ces régions, dans les négociations internationales. Il y a des négociations au niveau de l'Arctique parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur l'Arctique.
Par exemple, enjeux.
Des enjeux, y compris économiques. Bien sûr, l'ouverture, le changement climatique est en train de provoquer des changements économiques dans le Grand Nord, l'ouverture possible du passage du Nord-Ouest et passage du Nord-Ouest du Nord-Est, le développement possible d'un trafic maritime. Alors ce ne serait que pendant l'été et encore de façon extrêmement limitée, l'exploitation possible de certaines ressources, qu'elles soient minérales ou qu'elles soient liées aux combustibles fossiles, du gaz ou du pétrole, tout cela joue, mais aussi bien sûr il y a la présence française, elle se joue aussi au niveau de l'activité des scientifiques. Moi-même j'ai beaucoup je suis allé au Groenland, je suis allé en Antarctique, ce sont des domaines vraiment ça paraît très loin, mais c'est en termes de données sur le climat, ce qui nous a fourni des données extrêmement importantes sur le lien entre climat et effet de serre dans le passé, sur l'existence de variations climatiques rapides. Et donc, c'est aussi important que la France soit représentée à haut niveau par Ségolène Royal. Et donc, c'est un travail, je pense, qui est important pour nous, pour beaucoup de communautés, aussi bien du point de vue scientifique, du point de vue économique et du point de vue environnemental.
Et quand on apprend qu'une partie du Groenland, où il y a des records de chaleur, une partie du Groenland est en proie aux flammes, vous êtes surpris ou...
Oui, c'est surprenant. Oui, je dois dire, c'est extrêmement surprenant que les records au Groenland, été après été, les records de température sont battus au Groenland. Quand on va dans les régions côtières du Groenland, il y a de plus en plus de fonte dans les régions côtières. Ces grands fleuves de glace qui apportent la glace du centre du Groenland vers les régions côtières ont vu leur vitesse doubler depuis une vingtaine d'années. Et en fait, actuellement, le Groenland contribue de façon notable à l'élévation du niveau de la mer chaque année, pas loin d'un millimètre, disons pas loin de 20, enfin le quart de l'augmentation de l'élévation du niveau de la mer chaque année est lié à la contribution du Groenland.
Et l'élévation du niveau de la mer, il est bon de rappeler les conséquences désastreuses que cela peut avoir.
Oui, enfin pour le moment c'est conséquences sont assez limitées, une vingtaine de centimètres, mais c'est oui. Notable dans certaines régions, mais le problème futur, c'est évidemment le comportement des calottes glaciaires, celles du Groenland, celles de l'Antarctique de l'Ouest en particulier, qui contribuent déjà à l'élévation du niveau de la mer, et ça pourrait s'accélérer. Quand on regarde le Groenland à long terme, c'est une chose très clairement dite dans le rapport du GIEC, à long terme, si on maintient le réchauffement climatique au-delà de 2-3 degrés sur des siècles, à l'échelle millénaire, le Groenland aura disparu, ça équivaut à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc il faut bien avoir ça en tête.
Philippe, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Jean-Jouzel vous écoute.
Je salue Jean Jouzel. On s'est croisé souvent dans des colloques et conférences toujours passionnantes. Moi-même, je suis dans le business de l'environnement. Je dis bien business parce que c'est un business.
Oui.
Il n'y a pas de honte à ça.
Ah, ça m'intéresse. Philippe, c'est quoi le business de l'environnement?
Je vais vous donner un exemple.
Oui.
Tout bête. Nous, dans notre société, on a plusieurs départements. On s'occupe des microalgues. Jean-Jouzel sait ce que c'est. On s'occupe du CO2. C'est le gros problème aujourd'hui. On a un brevet mondial pour le marquage et la traçabilité du CO2. Et bizarrement, on n'arrive toujours pas à avoir un prix. Et ça rejoint ma question.
Oui.
Je pense que les technologies, nous les avons. Le savoir-faire, nous l'avons. Il nous manque simplement la volonté politique parce qu'il y a des lobbies tellement puissants qui s'opposent à tout changement, y compris le climatique et surtout le climatique. Mais eux, c'est le changement économique qu'ils veulent pas. C'est-à-dire perdre leur rente. On n'est plus dans une situation de rente et de pillage et de gaspillage de la planète. Il va falloir qu'on se rende compte un jour, sinon nous courons à la catastrophe. Les sites que vient de citer Jean Jouzel, ils étaient à une conférence de l'Agence spatiale européenne où on suivait en temps réel par les satellites le niveau d'accélération de fonte des calottes glaciaires, la montée de la mer, la désertification, les forêts qui brûlent, etc. Tout ça, on le voit sous nos yeux en temps réel. Il y a encore des gens qui disent que c'est pas vrai. C'est incompréhensible. Je vais vous dire, nous sommes dans une période d'apoptose. Alors qu'est-ce que c'est que l'apoptose? Tout bêtement, c'est la mort programmée d'une cellule. Nous sommes suicidaires. On dirait que l'humanité s'est mise elle-même une obsolescence programmée pour disparaître. Voilà.
Alors deux choses. D'abord, merci de votre témoignage. Bien sûr, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à y faire face. Difficulté de s'adapter, en particulier, on l'a déjà dit, on parle, ne serait-ce qu'en Europe, pratiquement 2 Européens sur 3 à la fin du siècle auraient des problèmes devraient faire face à des problèmes en période caniculaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut tout faire pour éviter, je suis d'accord. Alors, la première question, oui, bien sûr, il faut que environnement et économie, écologie et économie aillent de pair. Il ne faut surtout pas prendre, cette idée d'aller vers une société sobre en carbone comme une régression du point de vue économique. Je dis souvent dans mes conférences que, au contraire, cette transition nécessaire, indispensable, vous l'avez dit, je partage complètement, elle est enthousiasmante pour les jeunes parce que c'est de la créativité, c'est de la recherche, c'est de l'inventivité. Donc, et c'est techniquement possible, c'est économiquement viable, donc tout ça. Mais pour revenir à votre point, Un des freins actuellement, c'est si on veut avancer, il faut que les économistes se mettent aussi de la partie, qu'il y ait réellement un prix du CO2 raisonnable, qui progresse rapidement de façon effectivement à faciliter cette transition. Si on n'a pas d'outils économiques, si on n'a pas d'incitation à travers un prix du CO2, je crois que ça sera extrêmement difficile d'y parvenir.
Jean-Jouzel, Philippe évoquait aussi le rôle des lobbies qui freinent cette action contre le réchauffement climatique.
Oui, s'il n'y a pas eu de discussion du prix du CO2 lors de l'accord de Paris, pas réellement actuellement de discussions extrêmement dynamiques, c'est aussi parce que les pays pétroliers s'y opposent. C'est exact. Bien sûr, il y a par rapport à cette transition, il y a des gagnants, des perdants. On comprend que, les perdants se défendent, mais c'est là qu'il faut effectivement une véritable politique mondiale. L'accord de Paris est un très bon accord, je le pense. Il faut en relever l'ambition. ambition, mais il faut aussi que dans cette ambition, eh bien, s'inscrive réellement un prix du carbone à l'échelle planétaire. Il se développe aux échelles régionales, il se développe en Amérique du Nord, en Chine, en France, on a un prix au CO2 actuellement qui est inclus dans la taxe sur les produits pétroliers. Tout cela n'est qu'un début, mais il faut vraiment amplifier ce mouvement et faire que, un prix réel du CO2 à grande échelle favorise la transition vers une société sobre en carbone.
Pour compléter la question et la remarque de Philippe dans les Bouches-du-Rhône, la présence de Nicolas Hulot au gouvernement, ministre de la Transition écologique, on a des courriels d'auditeurs qui nous demandent à quoi sert-il Nicolas Hulot au gouvernement ? Est-ce qu'il sert à faire de la pédagogie ou alors il peut concrètement faire avancer cette transition écologique ?
Donc je suis assez proche de Nicolas Hulot, que j'aime beaucoup, que j'admire d'une certaine façon. Je l'admire parce qu'il est vraiment à l'écoute des scientifiques, du monde scientifique. C'est pas toujours le cas. Donc il s'appuie toujours sur les scientifiques. C'est un peu anecdotique, mais je me souviens qu'un jour avant de passer, je crois, à la radio, il m'avait appelé en disant, je vais parler des événements extrêmes dans 10 minutes, dis-moi ce qu'il faut dire parce que je ne fasse pas d'erreur, disons à ça. Donc il a vraiment ce regard et j'ai confiance, il a envie que ça marche et j'ai confiance dans son action et j'ai été très heureux qu'il soit effectivement nommé à ce poste et en plus ministre d'État. Et je dirais, bien sûr, il faut du temps, mais disons, il a affirmé une ambition, c'est difficile. Il est dans un contexte où, en fait, il y a tout le problème de l'alimentation qui discute actuellement, mais aussi bien sur l'énergie que sur les aspects biodiversité qui sont aussi extrêmement importants. Les lois sont là, donc son rôle, mais c'est aussi sa difficulté, c'est de mettre en œuvre ces lois, aussi bien sur la transition énergétique que par rapport à la biodiversité. C'est beaucoup de travail, mais en tout cas, les textes législatifs, on a eu, de bonnes lois dans le mandature précédente, et il y a beaucoup de travail maintenant de mise en œuvre. Il y a aussi beaucoup de travail sur les aspects alimentation, agriculture qui se discutent actuellement.
Au standard, François à Auxerre. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Bonjour. C'est à vous.
Je voudrais poser une question à votre invité.
Allez-y.
La responsabilité du gaz carbonique lié aux activités humaines dans le réchauffement climatique. J'ai lu les rapports du GIEC, peut-être pas le dernier. Je suis scientifique. J'ai lu beaucoup sur l'effet de serre. Est-ce que vous pourriez nous détailler la quantité de gaz carbonique naturel dans l'effet de serre et de vapeur d'eau ?
Jean-Jouzel.
Oui, alors deux choses, oui, effectivement, donc... Alors, par rapport à la quantité de gaz carbonique naturel actuellement, par exemple, par rapport, disons, lié au volcanisme est minime par rapport à l'augmentation des concentrations à gaz carbonique liées aux activités humaines. Il est clair que nous sommes passés depuis 200 ans, on a pratiquement augmenté plus de 40% maintenant les quantités de gaz carbonique, et cette augmentation c'est lié de façon très claire à, disons, des émissions liées dues aux activités humaines, en particulier et en premier lieu pour près de 85% notre utilisation de combustibles fossiles. Le CO2 joue pour les trois quarts dans l'augmentation de l'effet de serre, le reste étant lié au méthane, au protoxyde d'azote, dont une part est due à l'agriculture, mais aussi d'autres gaz. Donc le CO2 est au centre de ce problème de l'effet de serre. Alors, bien entendu, le premier gaz à effet de serre, quand on regarde l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau. Alors, contrairement à ce qui se dit beaucoup sur les réseaux sociaux, bien sûr que nous tenons compte de la vapeur d'eau dans les modèles. C'est bien le premier gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, c'est notre problème, puisque le réchauffement de l'océan fait qu'il y a plus de vapeur d'eau actuellement dans l'atmosphère qu'il y en avait il y a une vingtaine d'années, 7 à 8% de plus. Et cela, ça amplifie le réchauffement climatique. Donc, vous avez raison de parler de la vapeur d'eau. C'est pris en compte, mais nous n'agissons pas directement par nos activités sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est vraiment le réchauffement de l'océan qui en modifie la quantité, et cela, c'est bien pris en compte dans les modèles, mais en termes d'action humaine, eh bien, c'est le gaz carbonique qui est à l'origine de l'essentiel, d'une large partie de l'augmentation de l'effet de serre.
Jean Jouzel était l'invité de la rédaction de France Inter ce matin. Merci beaucoup.
Merci Pierre Veil.